Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous et à toutes à l'écoute de ce bulletin d'information. Les principaux titres ce mardi. L'Autriche prête à s'opposer au projet tchèque d'enfouissement des déchets nucléaires. Les députés votent la loi sur les groupes d'enfants malgré le veto présidentiel. Et la croissance du PIB tchèque pourrait s'établir cette année aux alentours de 2,5% selon la Commission européenne. L'Autriche se dit prête à agir politiquement et juridiquement pour dissuader la République tchèque d'enfouir ses déchets nucléaires près de sa frontière. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le chancelier fédéral Werner Faymann suite à un conseil des ministres. Des propos rapportés par l'agence de presse APA. Les autorités tchèques ont récemment annoncé le lancement de prospections géologiques dans différentes localités malgré l'opposition des populations qui y résident pour sélectionner un endroit où enfouir ses déchets nucléaire. La Chambre des députés tchèques a de nouveau voté en faveur de la loi encadrant la création de groupes d'enfants, lesquels doivent contribuer à lutter contre la pénurie de places dans les crèches et écoles maternelles du pays. Les parlementaires ont ainsi outrepassé le veto du président Miloš Zeman, inquiet du devenir des écoles forestières menacées dans leur existence par l'instauration de nouvelles normes sanitaires dans le cadre de ce texte. Le chef de l'État s'est fait l'écho des nombreuses protestations à l'encontre de cette loi et en soutien aux quelques 120 établissements de ce type apparus dans le pays depuis 2010 et qui proposent un enseignement en plein air. La coalition gouvernementale souhaite cependant trouver une solution à travers un amendement qui devrait être prêt au début de l'année prochaine. La croissance du PIB tchèque devrait s'établir cette année aux alentours de 2,5% selon la Commission européenne, un chiffre presque deux fois supérieur à la moyenne européenne qui tourne quant à elle autour de 1,3%. Bruxelles table de surcroît sur une croissance soutenue de l'ordre de 2,7% en Tchéquie en 2015 et en 2016. Parallèlement, Prague devrait maintenir son déficit annuel sous la barre fatidique des 3% du PIB. Ce déficit devrait en effet atteindre 1,4% cette année, 2,1% l'année prochaine et redescendre à 1,7% en 2016, toujours selon cette même Commission européenne. Le renouveau de l'économie tchèque, qui a récemment traversé la plus longue récession de la jeune histoire du pays, est consolidé par la vigueur de la consommation des ménages et par le dynamisme des investissements étrangers. Des scientifiques tchèques ont probablement découvert la clé d'un diagnostic plus précoce de la maladie d'Alzheimer et de ce fait, ils ont peut-être même décelé un chemin pouvant mener à la découverte d'un médicament. Ils ont en effet constaté que le cerveau des patients contenait à certains endroits des anticorps spécifiques pour ce type de démence. Aujourd'hui, environ 140 000 Tchèques souffrent de la maladie d'Alzheimer. En 2050, ce chiffre pourrait s'élever à 225 000 personnes. Du hockey sur glace, les billets pour le championnat du monde 2015 organisé en République tchèque sont proposés à la vente depuis ce mardi matin. Dans l'après-midi déjà, toutes les places pour les rencontres de la sélection tchèque étaient réservées. 5 heures après le début de l'opération, 110 000 billets ont été vendus. Le championnat du monde de hockey sur glace, événement toujours très populaire en République tchèque, aura lieu du 1er au 17 mai 2015. On termine avec la météo. Mercredi, les Tchèques fêtent les Myriam sous un large soleil présent partout ou presque. Au nord et au sud de la Bohême, le ciel est en effet localement couvert. Les températures vont de 14 à 18 degrés pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information que vous présentait Pierre Ménian. La suite, c'est maintenant en compagnie de Lucie Dalaselova.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de votre magazine d'actualité tchèque. Merci à Pierre Ménian pour son bulletin d'information. Au sommaire de ce mardi, les propos vulgaires que le président Miloš Zeman a prononcés lors d'une émission directe sur la radio publique ce week-end. Quels mots pour quelles conséquences? Guillaume Narguet nous rejoint en studio dans quelques instants pour nous donner plus de détails. Puis nous évoquons un projet éducatif qui vise à faire connaître le monde de l'islam aux lycéens tchèques. Un projet qui n'a pas obtenu l'appui du ministère de l'Éducation et Denisa Tomanova nous en dira plus. Enfin, dans la rubrique Panorama, nous allons revenir sur la conférence organisée par la bibliothèque Václav Havel en aval de la remise du prix Václav Havel des droits de l'homme. Nous vous proposons une interview avec une des finalistes de ce prix, la représentante du service jésuite aux réfugiés de Malte. Bonne écoute à toutes et à tous. Lorsqu'il a quelque chose sur le cœur, le président tchèque le garde rarement pour lui. Miloš Zeman ne fait alors généralement pas dans la dentelle. Parfois, il pousse le bouchon un peu trop loin. Cela a été le cas dimanche dernier lors d'une interview diffusée en direct depuis sa résidence présidentielle du château de Lahane par la radio tchèque. Le chef de l'État a eu recours à plusieurs vulgarités, certaines répétées, notamment pour parler du collectif russe Pussy Riot, qu'il a comparé en des termes crus et vulgaires à un groupe pornographique. Nous écoutons Guillaume Narguet.
Vláda podle mého názoru dosud ve svém konání učinila jednu základní chybu, že podlehla panu Kalouskovi a skvěla služební zákon.
Qu'une chaîne de télévision ou une station de radio publique soit contrainte d'avoir recours au bip sonore pour censurer et passer sous silence des propos d'un président de la République, cela ne se produit pas souvent. C'est pourtant ce qui se passe depuis quelques jours en République tchèque suite aux déclarations de Miloš Zeman. En tchèque, il existe une expression selon laquelle, traduit littéralement, quelqu'un ne va pas loin pour un mot, nejde pro slovo daleko. Cela signifie parler de façon très franche, voire s'exprimer crûment, en tous les cas dire ce que l'on pense d'un seul coup, dire ce que l'on a sur le cœur sans faire de détour. En français, dans le cas présent, on pourrait dire que le chef de l'État tchèque n'a pas mâché ses mots. Concrètement, Miloš Zeman a accusé le gouvernement, dans un langage imagé, d'avoir foiré la loi sur la fonction publique avant de demander et d'expliquer au journaliste qui l'interviewait s'il savait ce que signifiait le nom du groupe féministe russe Pussy Riot, le mot pussy désignant en argot anglais le sexe de la femme. Autant de vulgarités qui ont choqué les auditeurs et provoqué dans la foulée une vague de réactions et d'indignation dans les médias. Directeur de l'Institut de la langue tchèque à l'Académie des sciences, Karel Oliva explique pourquoi le vocabulaire employé par le président Zeman était pour le moins inapproprié.
Notamment dans ses déclarations relatives au gouvernement, il a dépassé toutes les limites de l'acceptable. Pour ce qui est par exemple de Pussy Riot, en remettant ses propos dans leur contexte, on pourrait encore estimer qu'il s'agissait de citations d'extraits de chansons du groupe et les excuser. Mais lorsqu'un président s'exprime de cette façon sur le gouvernement de son propre pays, cela devient absolument inacceptable.
Tandis que la radio tchèque a réagi aux nombreuses réactions qui ont suivi la diffusion des propos du président de la République en indiquant que l'interview était retransmise en direct, l'entourage de Miloš Zeman a défendu celui-ci en argumentant qu'il avait voulu se mettre au niveau de ses opposants politiques. Une interprétation qui n'a pas satisfait grand monde, à commencer par le directeur de l'Institut de la langue tchèque.
C'est une explication très peu convaincante. Je dirais plutôt que le monde duquel le président s'est rapproché est celui des pissoirs dans les bistrots de quatrième catégorie. Et même si on trouvait également suffisamment d'arguments pour critiquer les adversaires et critiques de monsieur le président, il ne s'exprime quand même pas de cette façon.
Ce mardi, soit deux jours après la retransmission des propos de son principal locataire, le château de Prague, siège du président tchèque, a fait savoir que celui-ci n'entendait pas s'excuser. Les directeurs de certaines écoles, eux, ont réagi en retirant le portrait de Miloš Zeman des murs des salles de classe, ce à quoi son porte-parole a répondu qu'il fallait, je cite, « respecter l'opinion de chaque citoyen ».
Le projet musulman à travers les yeux des écoliers tchèques a démarré ce lundi dans les lycées de République tchèque. S'il s'agit d'un projet éducatif qui veut favoriser la tolérance et familiariser les étudiants tchèques avec le monde de l'islam, le ministre de l'Éducation, Marcel Chládek, lui a ôté son patronage au mois de septembre dernier. Le projet dépend aussi de la seule discrétion des directeurs des lycées. Un sujet de Denisa Tomanova.
Même si la communauté musulmane n'est pas très nombreuse en République tchèque, les références à l'islam sont présentes dans les médias, souvent dans une connotation négative. Pour cela, plusieurs étudiants, notamment de l'université Charles, ainsi que des spécialistes de la question, ont décidé de se lancer, il y a près de deux ans déjà, dans l'élaboration d'un projet qui aurait pour but de faire découvrir aux jeunes élèves tchèques différents sujets qui ont trait à la religion de l'islam. Destiné principalement à des classes de collège et de lycée, ainsi qu'à des élèves de la seconde année du primaire, les l'équivalent du CE1 en France, le projet s'organise sous forme de séminaire d'une durée de 2 heures. Ce lundi, l'une des cofondatrices du projet, Clara Popovova, a débuté un premier séminaire au lycée Jan Kepler à Prague de la façon suivante.
Nous allons vous montrer différents points de vue pour que vous puissiez à l'avenir y réfléchir par vous-même et peut-être d'une autre façon aussi.
Le séminaire se présente sous forme de réunion en 3 groupes au sein desquels diverses problématiques sont abordées. Les organisateurs insistent sur le fait que les informations fournies au sein de ces séminaires relèvent de l'exactitude factuelle qui est appuyée, étayée et contrôlée par des auteurs et des spécialistes tchèques de l'islam. Veronika, une des étudiantes du lycée Jan Kepler, où le séminaire a été lancé, a dévoilé ce qui a le plus attiré son attention.
J'ai beaucoup aimé lorsque le débat a porté sur le hijab, mais surtout lorsque la problématique de l'égalité des sexes a été évoquée.
Ce projet offre aux écoles ainsi qu'aux institutions intéressées la possibilité d'organiser des ateliers et d'autres conférences sur l'islam. D'après Clara Popovova, l'idée de ce projet est née de l'absence de l'enseignement de l'islam à l'école. Ayant réalisé un travail de recherche sur l'islamophobie, Clara Popovova a fait savoir que l'omniprésente déformation de l'information médiatique vis-à-vis de l'islam a également été un des éléments déclencheurs de ce projet. Si le patronage du ministre de l'Éducation, Dalibor Štys, a été obtenu au mois de janvier dernier, l'actuel ministre de l'Éducation, Marcel Hladek, l'a abrogé au mois de septembre. La porte-parole du ministère de l'Éducation, Clara Bíla, a indiqué à ce propos.
Chaque directeur peut décider de son plein gré s'il intégrera ou pas ce projet dans l'emploi du temps de ses étudiants. Mais le ministère de l'Éducation ne tient pas à soutenir ce projet.
Il apparaît que cette réticence du ministère pourrait notamment s'expliquer par des plaintes des parents d'élèves ainsi que par des objections de certains spécialistes en la matière. Clara Popova a précisé.
Les diverses déclarations du ministère de l'Éducation à ce propos différaient à chaque reprise. Par exemple, le ministère avait signalé à l'hebdomadaire Lidové Noviny que l'on n'était pas capable de garantir que le projet ne soit pas une propagande de l'islam, ce qui m'a paru assez injuste vu le nombre de spécialistes qui se sont prononcés en faveur de ce projet, lui-même étant minutieusement élaboré. Quant à nous, le ministère nous a fait savoir que nous avons mal géré la communication avec les médias, qu'ils avaient obtenu beaucoup trop de mails négatifs et qu'ils ne disposeraient pas de capacité suffisante pour s'en occuper.
Malgré le fait que le ministère de l'Éducation a décidé de ne plus appuyer le projet, l'intérêt des écoles n'a pas diminué. Clara Popova conclut.
Paradoxalement, l'intérêt pour ce projet s'est accru grâce au fait que l'annulation du patronage est intervenue en période électorale, alors certains médias avaient considéré cela comme un geste populiste. À cause de cela, la télévision tchèque ainsi que la presse en avaient largement informé le grand public et ainsi d'autres écoles ont pris connaissance de l'existence de ce projet. Dans les mois à suivre, au total, 5 écoles participeront à cette initiative, ce qui représente pour l'instant le nombre maximum d'écoles que nous pouvons gérer, vu que personne de nous ne travaille dans le cadre de ce projet à temps complet. Mais paradoxalement, le geste du ministère a contribué à ce qu'on en parle davantage. Ainsi se terminent nos faits et événements et suit sur Radio Prague notre traditionnelle rubrique du mardi, Panorama de la Société. En septembre dernier, le prix Václav Havel, décerné par le Conseil de l'Europe pour la 2e année consécutive, a mis à l'honneur le militant azerbaïdjanais des droits de l'homme, Anar Mamadli. Incarcéré dans son pays, il était représenté par son père et un proche collaborateur à la conférence organisée en aval de la remise du prix par la bibliothèque Václav Havel. En revanche, les 2 autres finalistes, l'ONG israélo-palestinien B'Tselem, qui recense les violations des droits de l'homme dans les territoires occupés, et le service jésuite aux réfugiés de Malte, étaient bien présents à la conférence intitulée « Les droits de l'homme 25 ans plus tard ». Cette conférence s'est tenue en présence également du premier lauréat du prix, le dissident biélorusse Aleš Białecki. Dans cette première partie, Radio Prague vous propose l'interview avec Catherine Camilleri, directrice adjointe au service jésuite aux réfugiés de Malte.
Panorama.
Pa-no-ra-ma.
Bien que l'Union européenne a mis en place un système qui permet à ses citoyens, ou du moins à ceux qui peuvent se le permettre, de circuler librement en son sein, cette tendance à la suppression des frontières intérieures s'est accompagnée d'un renforcement de la protection des frontières extérieures. Malgré certains programmes communs, comme le règlement Dublin II, qui définit les responsabilités dans l'examen des demandes d'asile, la politique d'immigration reste un domaine d'action dans lequel les États sont souverains. Pour des raisons géographiques, certains d'entre eux, comme l'Italie, la Grèce ou Malte, sont les premières destinations d'un grand nombre d'immigrés, tandis que pour d'autres, comme par exemple la République tchèque ou les autres États d'Europe centrale, l'accueil de ressortissants de pays tiers reste plutôt une exception. Le discours politique et médiatique, qui parle souvent d'une affluence des immigrés, forge ainsi une image négative qui déforme la réalité du terrain, une réalité dans laquelle la majorité des étrangers sont en fait des demandeurs d'asile. En ce sens, le témoignage de Catherine Camilleri du service jésuite aux réfugiés de Malte est précieux. Le service jésuite aux réfugiés de Malte a obtenu en 2007 la médaille Nansen attribuée par les Nations Unies afin de récompenser les individus et associations œuvrant en faveur des populations déplacées. Invitée à la conférence sur les droits de l'homme, Catherine Camilleri est engagée dans les activités du service depuis les années 90, d'abord comme bénévole, puis aujourd'hui comme directrice adjointe. Catherine Camilleri explique que la nature de son travail a considérablement évolué depuis qu'elle a intégré l'organisation.
Lorsque j'ai commencé à travailler dans le service, la plupart des réfugiés vivaient en communauté. C'était des réfugiés de l'ancienne Yougoslavie ou de la guerre en Irak. Notre travail était axé sur l'accompagnement de ces communautés, même si à l'époque j'avais déjà des cas de personnes en détention. Par exemple, mon premier client a été une personne qui avait passé 6 ans en détention. Il ne pouvait pas le déporter et donc il était coincé. Néanmoins, en règle générale, dans les années 1990, relativement peu de personnes étaient en détention et si elles l'étaient, alors seulement pour une courte durée. Depuis 2002, moment où les habitants de l'Afrique subsaharienne ont commencé à arriver par bateau à Malte, ils sont nombreux à demander l'asile. Et comme il s'agit d'une population très diverse, les hommes, les femmes et les enfants étaient dirigés vers les centres de détention.
Nombre de ses clients ont souffert d'expériences traumatisantes lors de leur périple par la terre et par la mer pour arriver jusqu'à Malte. Pour répondre à leurs besoins, le service jésuite aux réfugiés a dû élargir ses services d'un conseil légal à un travail social en passant par un soutien psychologique.
Il est crucial pour nous d'être présents dans les centres de détention. Parfois, ces gens n'ont pas besoin d'un conseiller ou d'un psychologue, mais simplement d'une présence humaine pour savoir qu'ils n'ont pas été oubliés ou totalement abandonnés, car la détention est très isolante. Après les premiers sentiments de méfiance, ils comprennent notre rôle et l'apprécient car c'est important pour eux.
Catherine Camilleri critique le fait que beaucoup d'immigrés se retrouvent dans des centres de détention alors que d'autres solutions existent.
Outre les centres de détention, nous avons aussi d'autres types d'établissements d'accueil collectif. On les appelle les centres ouverts. Ils ne sont pas idéaux dans le sens qu'ils ont une très grande capacité d'accueil, entre 400 et 500 personnes, et ne fournissent que des services de base. Par exemple, un de ces centres se situe dans une ancienne école. Seuls 8 membres du personnel s'occupent de ces 500 personnes. Ce n'est pas parfait, mais les gens peuvent sortir et entrer librement. Aujourd'hui, la tendance est quand même de placer le plus de personnes possible dans ces centres.
Forte de son expérience longue de près de 20 ans dans le travail au quotidien avec les réfugiés, Catherine Camilleri n'hésite pas à parler de ses visions pour l'avenir qui se rapportent à la réforme du système actuellement en place.
Il faut que nous fassions en sorte à ce que la détention ne constitue pas la seule et première option. Je pense que le recours à la détention massive a été contre-productif pour Malte. C'est un système cher à maintenir. Il a été mis en place avec l'idée que la plupart des gens seraient renvoyés dans leur pays d'origine, mais ce n'est pas le cas. En plus, la détention a contribué à criminaliser les immigrés aux yeux de la population locale, car les gens en prison sont des mauvaises personnes. Je pense que nous avons besoin d'un système dans lequel les gens seraient supportés, mais pas détenus. Il faut aussi aller au-delà, à savoir donner aux gens les outils d'autonomisation à Malte, leur enseigner la langue, les envoyer à l'école ou en formation pour qu'ils puissent s'intégrer dans la communauté.
Si Malte se trouve confrontée à un flux migratoire vers l'Europe, c'est en raison de sa position géographique. Un mécanisme de gestion commune et solidaire de la part des États membres de l'Union européenne manque et sa mise en place n'est pas à l'ordre du jour. Le système de Dublin II va même dans un sens opposé car il implique l'État responsable de la gestion d'une demande d'asile, soit celui dans lequel le demandeur a pénétré en premier sur le territoire de l'Union.
I think the Dublin system in itself...
Le système Dublin ne fonctionne pas. Il n'a nullement amélioré les droits ou la protection des demandeurs d'asile. En pratique, il sépare souvent les familles et aggrave leur situation. Il faut que les pays européens reconnaissent qu'il ne s'agit pas seulement d'un défi pour Malte ou l'Italie. Néanmoins, la question n'est pas uniquement d'accepter ces gens sur son sol. Il faut aussi soutenir les États à la frontière, car qu'on le veuille ou non, leur position est une donnée géographique. Donc oui, il faut de la solidarité, mais il faut aussi remplir nos propres responsabilités.
Catherine Camilleri a déjà expliqué que la détention des immigrés contribue à leur criminalisation aux yeux des Maltais. Néanmoins, elle ne souscrit pas à une critique en bloc du traitement médiatique de la question. Elle souligne qu'il existe aussi des travaux de qualité réalisés par des journalistes d'investigation, et ce même s'il reste encore beaucoup à faire.
In general, there's still a lack of understanding.
En général, les faits sont présentés, mais il y a toujours un déficit de compréhension au sein de la population à l'égard des raisons qui poussent les gens à quitter leur pays. Il arrive régulièrement qu'un Maltais amène un réfugié dans notre bureau en cherchant à l'aider. Il devient son ami, il est capable de le comprendre. Nous avons besoin de plus de cela pour que les gens sur notre île ne vivent pas séparément. Ils doivent avoir des espaces de rencontre afin de se débarrasser de la méfiance et de la peur.
There are spaces for people to meet each other, to build relationships and to break down, you know, the mistrust and the fear.
La défense des droits de l'homme, récompensée par le prix Václav Havel, peut revêtir différentes formes. Ce qui relie les finalistes du prix, c'est leur engagement systématique et sur le long terme dans leur champ d'action. Après avoir présenté Anar Mamadli et le service jésuite aux réfugiés de Malte, la place sera laissée prochainement à l'association israélo-palestinienne B'Tselem qui recense les abus des droits de l'homme dans les territoires occupés. Et ainsi s'achève notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous a été présenté par Lucia Drexelova. Retrouvez tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Ahoy.